France Culture. Les nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
La cuisine n'a pas fait le monde, mais elle a participé à son évolution, disait Raymond Oliver à Pierrette Lecomte pour l'émission Bibliothèque gourmande en 1969. Raymond Oliver. Alors si tous les Français n'étaient pas allés déjeuner ou dîner chez lui, au Grand Véfour à Paris, tous les Français l'avaient du moins vu à la télévision, préparant aux côtés de Catherine Langeais des plats évidemment savoureux. Leur numéro aussi était savoureux, très au point, et ce fut la toute première émission consacrée à la cuisine. Art et magie de la cuisine. Raymond Oliver était passionné par la littérature culinaire qu'il collectionnait. Pas de recette donc dans l'émission qui vient, mais de l'histoire éditoriale, en quelque sorte.
Bonsoir Raymond Oliver. Notre deuxième entretien aujourd'hui va sans doute débuter par la bibliothèque elle-même. Nous allons attaquer le premier livre sans doute.
Pas tout à fait. C'est-à-dire, si vous voulez, nous allons
attaquer... Je suis impatiente, vous savez.
Oui, nous allons attaquer effectivement des livres, mais on ne peut pas dire qu'on va attaquer le premier livre. On va plutôt attaquer les livres qui parlent de la première période. Il est évident que nous sommes obligés d'imaginer comment et pourquoi ont été écrits les tout premiers livres de cuisine. Il faut tout de même mettre un tout petit peu l'accent sur la nécessité de transmettre une recette. Il y a eu, vous le savez, pendant des millénaires, des traditions orales, mais il y a eu aussi des traditions écrites. Dès que l'homme a pu écrire, il a écrit. Et quand il a écrit, il a parlé de cuisine. Nous savons que dans les premiers livres imprimés, il y a des livres de cuisine. Dans les tout premiers manuscrits, il y a des manuscrits de cuisine. Et s'il y a eu d'autres méthodes d'écriture que le manuscrit, il y a eu forcément transmission en ce qui concerne la cuisine. Voyez-vous, à la même époque que les... Même avant les manuscrits de la Mer Morte, il y a une pièce qui est dans ma collection, comme je vous le disais, qui est une plaquette babylonienne et qui est antérieure, de toute façon, au manuscrit de la Mer Morte. Les manuscrits de la Mer Morte sont de beaucoup plus récents, puisqu'ils datent presque de l'époque du Christ, à quelque chose près. Donc, voyez-vous, il faudrait, si vous voulez bien, que nous déterminions quels sont les chemins qui ont amené à l'écriture, non pas à l'écriture tout court, mais à la recette de cuisine. Et ça, je crois que c'est extrêmement important.
Alors, montrez-nous le chemin, Raymond.
Alors, je vais essayer de vous montrer le chemin. D'abord, les premiers livres de cuisine qui ont été écrits ne datent en fait que de l'époque romaine. Donc, il y a une longue période avant cela, et il y a eu des livres qui seraient aujourd'hui réputés gastro, comme par exemple les Cuisiniers de Ménandre, la comédie Les Cuisiniers de Ménandre, dont il ne reste pratiquement rien que des citations dans d'autres œuvres, parce que le livre a été brûlé lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous. Mais nous devons surtout parler des raisons qui ont amené l'homme à écrire. Si nous faisons un bilan de ce qu'est la cuisine, d'abord, qu'est-ce que c'est que la cuisine? Eh bien, la cuisine, nous devons bien le préciser, est la transformation, non pas obligatoirement par le feu d'ailleurs, mais la transformation par un moyen quelconque des aliments ou un mélange tel qu'il y a création. Or, nous pouvons penser que depuis que le monde est monde, c'est-à-dire depuis des millions d'années, les gens ont pratiqué la cuisine. Normalement, nous avons parlé de la Bible comme étant un livre culinaire, un livre gastro. Nous pourrions penser que le premier acte gastronomique a été la pomme d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas? Il y a eu là...
C'est un plat national et international.
C'est effectivement un échange gastronomique. Et pourquoi le symbole veut-il revenir à la gastronomie? C'est extrêmement intéressant à connaître. Nous pourrions épiloguer là-dessus pendant plus d'une émission, probablement. On peut penser aussi que seul l'homme cuisine. Il n'y a pas un animal au monde qui cuisine, en tout cas pas des vertébrés. Il y a effectivement une petite cuisine chez les insectes. L'abeille transforme le pollen en miel. Et encore, dans cette transformation, y a-t-il des variantes? En ce sens que le même miel n'est pas destiné aux mêmes abeilles. Vous savez que la gelée royale, par exemple, qui est du miel, ni plus ni moins, est tout de même destinée à la reine.
Et aux jeunes femmes.
Et selon la qualité, elle produira des mâles, des femelles, ou aussi des soldats ou des ouvrières. Donc il y a là une transformation, c'est un insecte qui fait de la cuisine. Nous pouvons penser que si il connaissait l'écriture, il aurait, pour la sécurité probablement, écrit cette recette. C'est là où je veux en venir, c'est cette espèce de sécurité.
Nous n'aurions pas alors des pattes de mouche, mais des pattes d'abeille.
Mais il n'y a pas que les abeilles. Il y a d'abord le scarabée bousier, n'est-ce pas, qui fabrique des pilules stercoraires d'excréments, n'est-ce pas, et qui, justement, en les transformant, en faisant ces petites pilules, leur injecte des sucs qui vont en transformer la possibilité de digestion. Mais la chirurgie alimentaire, par exemple, du ver luisant, est une chose assez extraordinaire, car le ver luisant, lui aussi, transforme sa nourriture. Il fait de la cuisine. Comment fait-il? Eh bien, il mange surtout des escargots. Et pour pouvoir manger cet escargot, d'abord, il lui fait une anesthésie. Il l'anesthésie et une fois qu'il est anesthésié, il lui injecte une pepsine qui fluidifie le corps d'escargot, n'est-ce pas? À ce moment-là, une fois que cette opération est terminée, eh bien, il boit littéralement l'escargot avec une paille, n'est-ce pas, comme un gin fizz.
Mais c'est passionnant, alors, ce que vous dites.
Alors, voyez-vous, alors ce sont à peu près les seuls, enfin que je connaisse en tout cas, ce sont des insectes qui font une petite cuisine, mais qui est depuis des millions d'années exactement la même, qui n'a jamais varié. Or, nous pensons, nous, que la cuisine, si elle est régie par certaines règles immuables, et tout le temps en mouvement. D'ailleurs, le livre de cuisine viendra le prouver. La cuisine est un art, certes, et comme tous les arts véritables, elle est évolutive, elle change avec les périodes, elle change peut-être avec pour des raisons très différentes les unes des autres. Ce n'est pas forcément parce qu'il manque de quelque chose que l'on abandonne une nourriture. Une nourriture, aujourd'hui, par exemple, on peut dire qu'il y a des rutabaga autant qu'il y en avait entre 40 et 44, et nous en mangeons beaucoup moins, etc. La cuisine est évolutive, mais nous devons savoir comment elle a débuté, si nous voulons savoir comment elle va évoluer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler surtout de ces questions.
C'est cela. Donc, il y a des cuisines d'époque. Il y a des époques dans la cuisine.
Il y a des époques. Alors, la première de toutes les époques, nous pouvons... Alors, évidemment, ça fera sourire, et ça me fait sourire à moi aussi, d'ailleurs. Je dois reconnaître, je ne l'élimine pas du tout, une partie d'humour dans cette question. Mais il y a la cuisine paléolithique. La cuisine paléolithique, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est toute la période paléolithique, c'est-à-dire la période où l'homme, apparemment, car nous n'en savons en fait rien, n'avait pas d'instrument. Il n'avait pas d'instrument de cuisine, c'est-à-dire il ne possédait pas le pot, qui serait, paraît-il, le premier instrument culinaire, ou le grill, n'est-ce pas, ou même simplement la broche, qui était encore quelque chose de très simple. Alors, il avait quoi? Il avait la pierre. Il pouvait chauffer une pierre. Il pouvait également jeter la nourriture dans le feu. Car il ne faut pas croire que ce soit une boutade. Je vous raconterai comment les aborigènes d'Australie et d'Océanie font cuire la nourriture. Ils la jettent réellement dans le feu. Et il y avait donc là, toute notre imagination doit recréer, n'est-ce pas, ce que pouvait faire l'homme lorsqu'il n'avait rien. J'ai essayé sur une île déserte du Pacifique, un petit peu comme Georges de Cône, et j'ai essayé, mais je n'étais pas tout seul, moi, nous étions quand même quatre. Nous avons essayé de revivre cette époque paléolithique, c'est-à-dire de ne nous servir que de nos mains, et puis effectivement, on avait quand même des allumettes, c'est vrai. Mais enfin, nous savions que si nous avions vécu à une époque beaucoup plus reculée, nous aurions su faire du feu, et du feu avec simplement les brindilles, le bois séché que nous pourrions frotter l'un contre l'autre jusqu'à l'obtention, etc., etc. Chose que nous avons toujours tous essayé de faire et jamais réussi, bien entendu. Alors, il y a deux livres essentiels de cuisine paléolithique. Il y a le livre de Delteille, puisque nous sommes dans les livres de cuisine, il ne faut pas l'oublier. Et alors, quand un jour j'ai acheté un livre, je m'occupais de graphologie à l'époque, un tout petit peu, et j'ai vu un titre à la devanture d'un libraire, « Ce qu'il faut connaître de l'homme par l'écriture ». Alors j'ai acheté immédiatement ce livre, croyant de très bonne foi qu'il s'agissait d'un livre de graphologie. Eh bien, pas du tout. Ce qu'il fallait connaître de l'homme par l'écriture était un livre traitant des méthodes de falsification. Les méthodes répréhensibles, d'ailleurs. C'est l'histoire de comment faut-il faire pour avoir des enfants. Eh bien, effectivement, si on l'achète, c'est parce que, justement, on ne voudrait pas. Eh bien, là aussi, il y avait... Alors, le livre de Delteille est un merveilleux livre, mais il ne traite pas du tout de cuisine paléolithique telle que je la supposais. C'est telle qu'aujourd'hui, je voudrais en parler, mais au contraire, de cuisine éternelle dans le temps. C'est-à-dire, cette cuisine qui se répercute, qui se prolonge dans les familles et dont on peut dire avec presque une sécurité absolue, au temps de Jules César, cette même soupe à l'ail était servie dans cette même région.
On peut donc se dire quand même aujourd'hui, quand on fait la cuisine, je fais là une cuisine qui ressemble à la cuisine paléolithique.
Oui, mais alors, là, déjà, Delteille utilise le matériel moderne. Il utilise la casserole en fonte émaillée, n'est-ce pas ?
C'est moins drôle.
Oui, c'est moins drôle. Alors, c'est là où un livre intervient, un livre qui, à mon avis, est très intéressant. C'est un livre de Gwenaël Bolloré qui s'appelle « Le manuel du pêcheur à pied ». Alors, dans tous les manuels de cuisine que nous aurons à feuilleter, nous allons trouver cette explication un peu simpliste, à mon avis. Que mangeait l'homme du paléolithique ? Il mangeait ce qui courait moins vite que lui.
C'est une jolie formule.
Il pouvait manger des escargots, il pouvait manger des hérissons, il pouvait manger tout ce qui est au bord de l'eau. Et c'est là où le livre de Bolloré... de Gwenaël Bolloré, nous révèle ce qu'il pouvait manger sans discussion, c'est tout ce qui vit à marée basse, à la portée de la main de l'homme, car moi, je lui ai dit dans la préface que j'ai écrit à ce livre, j'ai dit, je croyais que j'étais un pêcheur à la main, et en fait, j'étais un pêcheur à pied, car en fait, c'est la main qui va prendre le poisson, n'est-ce pas, là où il se trouve, et là où il est à la portée de la main, effectivement. Mais il est exact que dans la sémantique culinaire, il s'agit d'un pêcheur à pied et non pas d'un pêcheur à la main. Eh bien là, nous avons tout de même, dans ce livre, pas mal d'idées sur ce que pouvait être, effectivement, la première de toutes les cuisines. Par exemple, nous parlions de la pierre chauffée. J'ai souvent fait cuire des sardines sur des pierres chauffées. Mais c'est très long et c'est très difficile. Par contre, faire ouvrir des moules, n'est-ce pas, des moules que l'on a encerclés avec n'importe quoi, avec de la bourre de coco, ou même dans une anfractuosité de rocher, n'est-ce pas, qui permet de mettre ces moules debout les unes à côté des autres, de façon à ce qu'elles se tiennent serrées debout. On met dessus des brandes de n'importe quoi, on flambe et les moules vont s'ouvrir au fur et à mesure qu'on va les prendre. Ça, c'est de la cuisine paléolithique.
Ça ne doit pas être mauvais.
Et c'est très bon en plus. Alors, il est probable que, ça s'appelle la terrée de moules d'ailleurs, et il est probable que cette terrée de moules, depuis des millions d'années, se pratique sur la côte basse Bretagne, n'est-ce pas ?
Vous m'en ferez goûter un jour ?
Bien entendu. Alors, nous avons aussi l'exemple que nous pouvons regarder et imiter, je vous en parlais tout à l'heure, des aborigènes d'Australie. Ceux-ci sont restés plus primitifs encore que ceux d'Océanie, parce qu'ils ont été chassés, je dis bien chassés, et ils ont toujours vécu beaucoup plus loin de la civilisation que les habitants de l'Océanie, que les Kanaks, qui eux ont tout de même été influencés en grande partie par la civilisation depuis Cook et depuis également Boulainvilliers, etc. Mais on les voit faire. Et quand on les voit faire, on s'imagine ce qu'était la cuisine paléolithique. Quelles étaient ces formules ? Elles sont d'une simplicité absolument biblique, c'est le cas de dire. Ils jettent effectivement la nourriture dans le feu. Mais pour cela, il est évident qu'il en faut beaucoup. Il n'est pas question de jeter des sardines dans le feu, mais par contre, il est parfaitement facile de jeter une loche qui est un mérou, que l'on attrape avec une très grande facilité dans les atolls du Pacifique. Alors, un mérou de 10 kilos ou 15 kilos va être jeté dans un foyer jusqu'à ce qu'il soit absolument noir comme du charbon. Il est noir comme du charbon et il est un espèce de morceau de charbon. Alors, il le retire du feu avec une perche quelconque, il le lave dans l'eau du lagon, et puis il l'ouvre en deux avec un couteau quelconque. Ils ont des couteaux de silex encore, qui coupent fort bien d'ailleurs. Et lorsqu'ils l'ont ouvert, ils trouvent là-dedans une nourriture qui a été cuite sans sel, mais qui est concentrée, qui est délicieuse. Mais effectivement, il faut un poisson de 12 kilos ou 10 kilos par personne. Et ça, c'est ça qui est difficile pour nous à trouver et qui se conçoit mal dans notre formule de cuisine.
Si je comprends bien, ces premières constatations font partie de la cuisine paléolithique. Premier livre, en vérité, que nous venons à peine d'entrouvrir.
Oui, ce n'est pas le premier livre écrit.
Non.
Mais ce sont les livres écrits sur cette première période. Ça, nous ferons des allers-retours comme ça constamment. Oui. Nous n'allons pas suivre les livres à pas. Nous allons suivre plutôt les époques et essayer de parler de ces époques, ce qui se passait dans ces époques et pourquoi ces livres ont été écrits.
Sur la plaquette babylonienne, il y a une recette ?
Non, il n'y a pas une recette en fait. Il y a un marché. Un marché qui consiste à échanger du grain, une quantité déterminée de grain, contre une quantité déterminée de galettes. Nous en reparlons dans les formules de cuisine et d'ailleurs dans les livres de cuisine. Nous allons retrouver tout le temps le grain, la céréale, comme étant la base d'une alimentation. Et c'est pourquoi on peut dire qu'il y a la civilisation du maïs, la civilisation de l'épeautre, la civilisation du riz, la civilisation du millet, n'est-ce pas, et la civilisation du blé ou du froment. N'est-ce pas, ce sont des civilisations qui, effectivement, déterminent aussi bien les périodes de l'histoire du monde que peuvent le faire les dynasties, par exemple, des Égyptiens.
Vous avez dit un jour, Raymond Lévert, vous avez dit un jour, j'ai gardé la phrase, la cuisine n'a pas fait le monde, mais elle a participé à son évolution.
Vous me parlez très bien. De très belles pensées.
Ah, vous l'avez dit devant moi.
Ah bon, j'en accepte la paternité.
Ne vous reniez pas.
Je vais la retrouver peut-être dans Bria Savarin un de ces jours, mais enfin...
Non.
Non. Oui, nous pourrons raconter l'histoire du monde et des civilisations en ne nous servant strictement que de la cuisine, n'est-ce pas ? C'est exact, puisque, au fond, le monde, la famille, la civilisation s'est créée à partir de la nourriture, car au départ, et c'est là où le paléolithique a une importance assez grande dans la façon dont nous devons concevoir le néolithique qui va immédiatement apparaître dans les écrits à ce moment-là, eh bien, nous, il a une importance capitale parce que, justement, il a été la formation même de la société. C'est le fait de s'asseoir autour d'une table qui a fait que la famille a pu prendre naissance, la famille constituée, organisée. Alors, on pourrait penser que le feu a cristallisé autour de lui la composition, justement, des premières civilisations et donc de la première cuisine. C'est probablement faux, car il est probable que le feu a toujours été connu. On a voulu le faire remonter à des époques déterminées, on a voulu que ce soit un orage qui aurait brûlé une forêt, qui aurait dans cette forêt brûlé les animaux, et que les habitants de cette région, ayant mangé ces animaux et ayant été brûlés dans la forêt, auraient trouvé là un goût nouveau. C'est faux, c'est de toute évidence faux. Le feu a toujours existé, l'homme a plus ou moins bien su s'en servir, plus ou moins bien. Et d'ailleurs, on a retrouvé des traditions qui se sont perdues seulement à notre époque, c'est-à-dire pendant l'époque chrétienne, et qui était celle des Vestales, qui conservaient le feu, parce qu'il s'agissait justement, on savait le faire, mais il était beaucoup plus pratique d'en garder tout le temps, et de façon à, au moment où on en avait besoin, de le reprendre. C'est l'histoire de la veilleuse, c'est l'histoire nous avons vue dans les campagnes, ô combien, même de mon temps, à la campagne, on gardait une veilleuse qui était plus pratique que des allumettes qui existaient déjà, mais on gardait les traditions. Et c'est pourquoi je veux reprendre dans la question des livres de cuisine, la cuisine paléolithique et la façon dont elle a été définie et les quelques recettes qui ont pu, que nous pouvons imaginer, car seule l'imagination peut intervenir. À partir du néolithique, nous allons avoir des recettes. En tout cas, nous allons avoir des successions, des constitutions de menus. Mais elles n'avaient pas été inventées la veille. Il y avait déjà des milliers d'années, probablement, que ces recettes étaient déjà pratiquées. On peut dire, nous pouvons dire avec une grande sécurité, que la même cuisine, la cuisine de Delteille, justement, de ce livre qui s'appelle « La cuisine paléolithique », a subsisté pendant des milliers d'années. En tout cas, quand je vous dis la soupe à l'ail existait du temps des Romains, et ceci exactement dans le même minervois, n'est-ce pas, chez Delteille, eh bien, il est à peu près certain que à l'époque néolithique, il y a eu tout de même une espèce d'héritage de la recette, et cette recette, pendant beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, c'est transmise de mère en fille ou de père en petit-fils, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, parce que la tradition orale était beaucoup plus stricte, et heureusement qu'elle était plus stricte. Car pensez par exemple qu'un livre de cuisine, qui est celui de Villon, n'est-ce pas, qui est le premier livre, Les joyeusetés de Maître François Villon, qui est un livre spécifiquement, totalement gastro, a été de tradition orale pendant presque 100 ans.
En tout cas, nous savons aujourd'hui que si le feu est à la base de toute cuisine, nous comprenons pourquoi vous ne manquez pas de flamme.
Bibliothèque gourmande, Raymond Oliver au micro de Pierrette Lecomte. Première diffusion, 8 juillet 1969.